appropriation culturelle.
Salut tout le monde, donc ben c'est ça, ça faisait quelques mois qu'on en parlait, nouveau projet de podcast qu'on voulait mettre en branle parce que ben moi de mon côté j'avais le goût de parler de l'actualité. J'étais un peu de retour dans mon monde des communications, ça faisait 4 ans.
Oui.
J'ai été journaliste pendant 4 ans, ceux qui me connaissent pas, j'ai été attaché politique pendant 4 ans, puis là, retour sur la scène des coms, de l'actualité, je suis ça un peu, j'ai le goût de commenter, puis Pierre-Marc aussi avait un projet.
Ouais. Un gros crise de projet.
Un homme de peu de mots.
Un homme de peu de mots. Non, mais tu sais, déjà, nous, on avait commencé des spectres pour un podcast qui a jamais eu lieu. Mais tu sais, qui est modifié, qui devient ce podcast-là au final. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, de parler, toujours de continuer de parler de culture, on baigne toutes, je pense, les personnes de mon entourage, on baigne toutes dans le milieu culturel pas mal. On est des acteurs actifs du niveau culturel. Puis c'est le fun, je pense, de donner la place à du monde de la région. Venez parler de leurs projets, venez parler de leurs affaires. Pas nécessairement toujours du monde de la région, mais tu sais, pouvoir faire rayonner cette culture-là sur une autre plateforme. Puis je pense qu'en Abitibi, il y a de la place un peu au niveau podcasting. Je pense
parce que la plateforme du podcast, ce qui est le fun, c'est ça sort de ce qu'on appelle la clip de 8 secondes. Là. Autant pour, de mon côté, j'avais le goût de donner une plateforme de vraiment approfondir des sujets. Ben, en fait, je veux pas me prendre pour la main puis approfondir et dire que vous allez apprendre des millions de choses, mais
avec au moins, autour de la table, il faut se donner une chance.
S'il y a un invité qui est là, ben, il va avoir du temps pour jaser. Puis, c'est ça qu'on veut. C'est ça que le podcast permet pour ceux qui connaissent un petit peu ce phénomène.
Je pense qu'on veut poursuivre la même veine que les autres podcasts font, c'est-à-dire d'avoir des discussions non censurées, des discussions vraies. C'est ce qui est le fun avec le podcast, en fait, là, quand tu écoutes un podcast, ce que
avec
tu vas avoir, c'est une vraie discussion. Avec un drink, éventuellement aussi. Là.
Excuse-moi ça, je pense sur le pot de bière, Ben. Benoît Saint-Pierre, la technique. Je n'ai pas présenté non plus Pierre-Marc Langevin, qui est là aussi comme deuxième co-animateur.
Yes.
Puis Benoît, qui est autour de la table. Puis il y a Christopher aussi, qui est là comme spectateur pour nous assister.
Salut,
d'ailleurs, il faudrait vraiment que Christopher nous amène de la bière, je pense.
Je pense que ça serait son rôle dans le podcast. Ouais, Christo, c'est ce qui fait de nous amener de la bière. Oui, effectivement, c'est ça, comme Mathieu dit, je vais agir à titre de co-animateur aujourd'hui. Mais certains épisodes, je vais prendre le lead aussi.
C'est ça, parce qu'il va y avoir deux versions, dans le fond, du podcast qui n'a pas de nom. On va en trouver un au fil du temps.
C'est un peu ça l'introduction.
On avait un hostie de bon nom disons, au début, mais malheureusement, après quelques recherches, on s'est rendu compte que ça existe déjà.
Depuis 104 épisodes.
On va leur laisser. Puis c'est ça, donc on va avoir deux types d'émissions, dans le fond, où on va parler plus d'actualité locale, niveau économique, environnement, politique. On va parler aussi d'une autre, du culturel, donc des invités qui vont être plus du milieu culturel. Puis des invités qui vont être plus de l'actualité en général.
Yes.
Puis on commence ça aujourd'hui.
Avec M. Rodrigue Turgeon, Mathieu. C'est une idée de toi. Rodrigue, pourquoi Rodrigue?
Ben Rodrigue, ça fait quand même... Ben moi, c'est un petit peu bout de temps, quelques années, je le connais. Parce que bon, c'est un gars d'Amos qui a évolué dans le milieu culturel, entre autres, un petit peu. Puis là, de retour en région, ben, il s'est beaucoup impliqué avec toute la mobilisation entourant le projet Saguenay Mining, qui ne fait pas l'unanimité, disons-le. Donc, j'ai le goût d'en discuter avec lui. Donc, c'est pas mal lui, avec sa gang, là, qui a piloté un petit peu le groupe, la mobilisation, qui ont été victimes aussi un petit peu des frasques de la minière, tout ça. Donc, j'ai le goût de développer ça avec lui. On sait que ça s'est complété. Enfin, ils ont gagné un petit peu leur bataille pour le BAP plus tôt cet hiver. Et là, ben, c'est pas terminé. Il y a d'autres choses qui se passent avec ça. Ils s'impliquent aussi dans le projet gazoduc là, de leur côté. Okay. Donc, on va pouvoir en discuter un petit peu plus.
C'est-tu quelqu'un qui est haut dans la classe sociale? Le duc du gaz?
Ouais, c'est ça, Ben. Fait que Ben, il n'y aura pas souvent un micro.
C'est lui qui a le contrôle du son, malheureusement. Hein.
J'ai une tradition avec La Rochelle aussi, Mathieu La Rochelle, avec qui je m'implique beaucoup, Radio CFME, puis toutes les deux Mathieu, parce que parfait. On a toujours l'ouverture de la bière, donc c'est un classique.
C'est un officiel, donc ouverture de bière, ouverture de podcast, un chin, les garçons.
Ben, santé au projet.
Santé au projet. Si vous êtes chanceux et vous entendez ça, ben profitez-en.
Oui.
Ouvrez-vous une petite bière, écoutez-nous en faisant caca, en jouant sur vos TV. Faites ce que vous voulez.
Pas d'auto, peut-être, là, comme la plupart des gens, mais en tout cas...
Ben, en faisant caca dans l'auto, c'est quand même cool.
Moi, j'écoute mon podcast en travaillant, en général.
Oui.
J'aime ça parce que...
Tu travailles pas beaucoup, toi.
Moi, je travaille pas beaucoup. Non, mais quand tu travailles avec un podcast, ce qui est le fun, c'est qu'avec la durée, des fois, même si tu manques un 2-3 minutes, tu peux revenir facilement dans la discussion parce que souvent, le point a évolué, mais il est encore en...
Ça fait différent de la musique aussi. À un moment donné, tu te tentes d'écouter juste la musique.
Ouais.
Et moi, d'écouter des podcasts de temps en temps, c'est le fun. Donc, en même temps que travailler. trouve que c'est léger.
C'est léger, ça s'écoute bien, puis c'est intéressant.
Puis on parle beaucoup du podcast d'humour. C'est beaucoup les podcasts qui marchent là au Québec. Évidemment, il y a Sous-écoute, mm-hmm. Il y a les Trois Bières et tout ça, mais il y a plein de podcasts sur plein de sujets. Donc, fait que nous autres, c'est ça. C'est vraiment c'est la région qu'on peut mettre au centre de ce projet-là, de cette balado.
Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des opinions aussi, d'avoir des invités qui viennent pas de la région, mais qui parlent de la région, c'est ça.
Ouais, c'est un peu dans les temps, on révélera pas de punch parce qu'on n'a pas vraiment de punch. on a des idées de personnes qu'on voudrait inviter de l'extérieur, là, que la région a eu un impact sur eux, puis ils ont eu un impact sur la région, donc c'est vraiment intéressant.
Mais ça pourrait être aussi un podcast mobile, là. On prend le stock, on s'en va dans une ville, puis on enregistre avec n'importe qui.
Parce que pour les gens à la maison qui nous écoutent en ce moment, le centre de table, c'est une pieuvre avec plein de micros qui se déplacent très facilement. Fait que c'est vraiment cool.
On est au beau milieu de Pressac. Ouais. Donc, vraiment, c'est. C'est sûr, là, on est dans le sous-sol. Là, on voit pas vraiment la magie de Pressac, là, mais quand même, on sent l'ambiance. C'est cool.
Yes.
Puis Rodrigue Sojon s'en vient par Télamos dans quelques instants. Fait que on le laisse arriver, puis on vous rejoint avec Rodrigue Sojon.
Pierre-Rodrigue Turgeon. Hey, ça, c'est une belle fin. Fait qu'on se voit tout à l'heure. Merci tout le monde.
Il y avait comme un fret, il y avait comme un malaise de 10 secondes. Il m'a manqué.
C'est chiant, les ajustements. Hein? Les espaces d'ajustement, Mathieu, ça crée un petit moment vraiment désagréable.
Ouais, c'est comme c'est un moment avec soi. C'est un petit recueillement qu'on fait pas souvent. C'est comme dans le temps, il faisait la prière avant tout. Là. Mais là, maintenant, c'est genre, on donne du noise.
Ce qui arrive, c'est que le podcast est tellement à portée de tout le monde que les gens font leur prière avant le début du show. Comment ça va, Mathieu?
Ouais, ça va bien. On a un premier invité dans notre premier podcast officiel.
Yes, ça suffit enfin.
C'est pas une surprise parce qu'on nous en a parlé pendant 10 minutes tantôt, mais Rodrigue Sojon qui est là.
Yes, salut les gars, je suis content d'être ici.
Ça va, ouais?
Ouais, c'est vrai.
La route a bien été?
Ouais, la route a bien été. J'ai croisé une charmante perdrix qui essayait de se camoufler sur l'asphalte.
Fait que, un classique.
Ça a bien fini pour elle.
Ah oui. Parce que ça aurait fait un bon souper au final.
C'était ça la perdrix que tu pensais pendant 10 secondes de
ouais, de c'était vraiment. En fait, pour elle, puis on se doute, là, c'était une femelle, fait que sûrement pour sa progéniture. Là, fait que, on vient d'en sauver 6 pour l'automne prochain, je pense.
La vie aux chasseurs, on a déjà.
Ouais, c'est ça.
On vient d'avoir 6 de moins dans le bois. Ben, c'est pas pour la chance qu'on t'a invité. D'ailleurs, merci pour tu nous as donné un petit cadeau, là, un petit thé du Labrador. Merci, c'est cool, c'est une belle attention.
On le montre au micro.
C'est notre premier podcast, on s'est déjà fait acheter par notre invité, c'est vrai.
Non, mais c'est ça, c'est en fait, courant de l'été passé, là, j'ai passé beaucoup de temps les fins de semaine dans le bois, puis je trouve que c'est une belle manière là, de se recueillir puis de passer du temps dans la nature. Fait que là-dedans, il y a du thé du Labrador, du thé des bois, du petit thé, il y a de la menthe sauvage. Saviez-vous ça que ça pousse sur le bord de l'Arcana?
Ouais, j'en ai entendu parler.
Ouais, puis c'est super bon. Moi, je m'en étais pris un plan. Puis,
mais là, pourquoi c'est du thé du Labrador, ça pousse à l'Arcana? C'est comme mêlant?
Ouais, non, c'est particulier. Le thé du Labrador, on est chanceux, il y en a jusqu'ici, mais plus tu montes dans le nord, plus il y en a. Okay. Là,
c'est tout toi qui a fait la quête.
Ouais, puis c'est fini. Puis là, c'est ça, il y a du sapin là-dedans, des épines de sapin, mais ça finit au Magic Bullet. Puis là, ben, pas besoin d'en mettre une grosse quantité, mais c'est ça, tout le monde pense que c'est
ça ressemble à autre chose. Ça ressemble à du cannabis.
Quand on peut en parler, c'est légal.
Ouais. Ben, en même temps, on peut le fumer, puis il se passera juste rien.
Il y a personne qui le voit en même temps, fait que c'est correct. On peut dire que ça ressemble à un jello, puis
c'est ça.
T'es bien dans les
ben, merci. Ça a-tu des vertus?
Oui, il y a beaucoup de vertus associées à toutes ces belles.
La patience en est une.
Plantes. Que... ouais. Puis, non, c'est bon pour la digestion, c'est bon pour les mal de cœur aussi, là, mais en général, c'est un mix de plein de bonnes choses, puis on serait étonné de savoir toutes les vertus qu'on va retrouver dans la forêt là, autour de nous. C'est un peu dans cette approche-là que je m'intéressais aux plants de la forêt boréale, mais c'est, tu sais, je suis pas herboriste pendant tout, là.
Il y a beaucoup de livres, par exemple. Il y a un auteur, j'oublie son nom.
Roger Larivière.
Roger Larivière qui a fait beaucoup de livres sur
champignons,
les herbes, le chaga, je pense. Une belle grosse.
Ouais, le chagrin en Abitibi est assez pas très populaire. Ouais.
T'sais, on y pense pas comme ça, mais en Abitibi, on est dans la forêt, pareil.
Hey, ça, c'est des interventions à Benoît. Merci beaucoup d'être là.
Je vais faire ça tout le long de l'heure ou du 45 minutes qu'on va enregistrer. Fait que si ça vous tente que je continue, ben, je vais continuer. Si ça vous tente pas, ben, je vais le faire pareil.
On va avoir des segments, recouper les segments Benoît. Ouais, c'est ça. Des frettes.
si on t'a invité, Rodrigue, c'est évidemment, ben oui, pour toutes ces belles affaires-là de forêt, mais c'est surtout pour un projet que tu as mené avec ta gang pour la mobilisation pour la protection de l'Esquerre, notamment avec le projet minier Sayona Mining, Sayona Québec. Ça fait un an, là, il y a quelques semaines, quelques mois que la mobilisation, en même temps, ça s'est concrétisé avec une victoire pour le groupe qui est le fameux BAP. On va voir ce que ça va donner dans les prochains mois, là, mais... qu'est-ce que ça a fait là, quand ça s'est concrétisé? Comment t'es...
Hey, écoutez, c'est une année folle quand même. Puis je vous dirais, là, puis c'est pas une primeur pantoute, mais il n'y avait rien de professionnel dans notre démarche. Là. On a appris sur le tas tout le long. Puis je pense que c'est ça qui est beau de souligner là, après tout ce temps-là. C'est de dire que pas besoin de savoir comment que ça marche pour que ça marche. T'sais. Puis c'est des. Somme toute, là, c'est une question de principe, c'est une question de conviction. Puis quand tu te ramasses plusieurs à partager ces mêmes principes et convictions-là, ben je pense qu'on est capable de grandes choses. Puis moi, c'est ça que je retiens. C'est vraiment motivant pour n'importe quelle autre cause qui pourrait interpeller n'importe qui. Moi, je vous invite là, à vous rallier ensemble pour n'importe quoi. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est un bel exemple. Vous partagez... j'ai donné un coup de coude ça. Vous partagez...
Ça va arriver.
Non, c'est ça. Vous partagez une vision commune, une volonté, un projet. Puis tu sais, c'est... Puis moi, ce que je trouve le fun dans ce que vous faites, puis un peu ce qui rejoint ce que nous, on voulait, c'est d'intégrer le plus la population là, autour. Puis une mission un peu de ralliement, de communication. Puis ça, je pense qu'on... Ça, c'est au-delà du BAP qu'on a eu, au-delà de tout le reste. Ben je pense que ça, c'est ce qui nous a permis de un peu savourer la victoire au final. Tu sais, de dire que c'est un projet collectif commun. Puis,
ça a ouais. été tough parce que là, plus évidemment, il y avait une certaine mobilisation qui était... bon, tout le monde voulait le BAP, ça c'est sûr. Mais là, plus le temps avance, plus la lumière tentait de nous faire croire que dans le fond, il y avait les deux côtés. Il y avait des gens qui étaient contre mine, pro mine. On a essayé de polariser le débat. Ça a été tough de gérer ça à un certain point.
Oui, vraiment. Je dirais que ça a été le plus difficile. Puis moi, je suis quand même chanceux. J'étais un peu en retrait du foyer de la division sociale, là, qu'on s'imagine bien que ça se passait dans le village de la Motte. Moi, j'habite à Amos. C'est quand même, c'est-à-dire, je suis à l'extérieur de ça, c'est à 20 km, c'est relatif. Là.
Mais quand même, il y avait les réseaux sociaux aussi, t'étais accessible sur les réseaux sociaux. J'imagine que tu t'es fait attaquer là aussi.
Puis... Moi, j'ai été chanceux, je dirais, là. Puis je pense que c'est un peu dans l'approche qu'on a prônée tout le long, de ne pas se centrer ça sur les individus. Mm-hmm. Mais vraiment, nous, on voulait, dans le fond, que le processus se déroule dans une autre instance. Fait qu'on attaquait le processus, on n'attaquait pas les individus derrière les décisions qui nous menaient là. Puis ça, c'était tant de la part de la compagnie minière que du gouvernement. Puis ça, ça a été vraiment ce qu'on a essayé de faire tout le long pour justement pas que ça se polarise. Puis pas que... Parce que la force de l'Abitibi, quand on y pense, c'est vraiment le fait que tout le monde se connaît. Puis en même temps, c'est un petit peu notre faiblesse parce que surtout le monde d'Amos, ben, on a la réputation d'être snob un peu, mais c'est pas tant d'être snob que tout le monde se watch, puis il y a comme une espèce de conservatisme que moi, de ce que j'ai observé, de dire j'essaierai pas trop de sortir du cadre, mais en même temps, c'est une ville que c'est le fun d'être à la mode. T'sais, fait que quand tu deviens à la mode, ça devient il y a un potentiel de transformation sociale impressionnant, je pense. Mm-hmm. Notre faiblesse de dire tout le monde se watch, tout le monde fait la même chose, ça peut devenir une force. Mm-hmm. Puis moi, ce que j'ai pu observer avec la mobilisation, c'est de voir toutes les semaines du monde dans la rue dire « Hey, là, je sais pas, c'est cool. » Enfin, tu sentais qu'il y avait un phénomène d'entraînement, puis ça, c'est ce qui nous a soutenus tout le long. Mais des attaques personnelles, moi, j'en ai pas ressenti. Il y en a peut-être sûrement qui ont eu des propos à mon égard, parce que à certains points, j'étais un peu... à l'avant-scène de ça, mais parce que ça prenait quelqu'un. Mais tout le monde se rendait bien compte que c'était pas non plus moi qui demandais un match, mais c'était l'ensemble de la population.
C'était juste un des porte-paroles.
C'est
et
ça.
Il y avait toi, c'était qui les autres porte-paroles qui
étaient
avec toi?
On était deux co-porte-paroles, Élise Bledaudy, une fille qui est née sur ma rue, sur la rue des Palmiers à Amos.
Ah oui?
On était à deux maisons près, mais on s'en souvient pas parce qu'elle a déménagé genre à 5 ans, puis genre, okay. je me souviens pas de ça. Ma grande sœur se souvient très bien d'elle, fait que tu sais, c'était... On était à quelques années de s'en souvenir, mais tu sais, on jouait
ensemble. Les grands esprits se rencontrent, comme on dit. Hein?
Ouais, c'est ça qui est assez drôle. Puis, mais ça, elle a déménagé à Val-d'Or. Puis, fait que pour ainsi dire, on partageait là, la passion là, de la protection du territoire abitibien dans son ensemble, mais particulièrement pour la fierté de l'eau. Je pense que c'est ça qui nous a tout le monde éveillé. Puis, c'est important de le dire, puis là, il y a comme eu un débat à un moment donné de dire « Oui, mais l'eau est pas menacée », mais au fond des choses, nous, on a toujours maintenu la ligne que à la base, il faut que ce projet-là passe au BAP. Ouais. Il y a les enjeux qui sont soulevés environnementaux nécessitent que les plus grosses évaluations environnementales, les plus rigoureuses, soient menées. Mmh. Puis dans les faits, ce que la compagnie a essayé de faire, c'est d'éviter les compagnies, la procédure d'évaluation la plus
rigoureuse. Gagner du temps.
C'est nébuleux. Ça reste à voir, il faudrait leur demander, mais c'est vraiment ce qu'ils ont dit tout le long. Il y avait une fenêtre d'opportunité de leur côté. Mm-hmm. Mais de notre point de vue, c'était intransigeant. On a toujours prôné la même chose, à savoir que les études environnementales devaient être faites de la manière la plus rigoureuse, puis on en est là.
Ouais. Parce que dans le fond, ce qui arrive avec le collectif, vous n'êtes pas contre la mine en tant que telle, vous voulez vraiment juste que le processus soit respecté.
À la base, ce qu'on s'est dit, c'est pour vraiment avoir une position rassembleuse, il fallait qu'on puisse permettre d'avoir le plus d'informations avant de se positionner.
Ouais,
puis on croyait que le processus devant le Bureau d'audience publique en environnement nous permettrait d'avoir accès à plus d'informations, puis de manière plus transparente, de manière plus indépendante aussi. Mm-hmm. Parce que là, tout ce qui nous était présenté dans les séances de consultation de la compagnie, c'est leurs affaires qui viennent d'eux autres. Fait que nous, on avait besoin d'un tiers indépendant. Puis c'est vraiment ce qu'on a considéré que le BAP pouvait jouer ce rôle-là, mais on se leurre pas personne. On n'a jamais prétendu qu'une fois que le projet passerait au BAP, le BAP allait avoir le pouvoir de dire ce projet-là, il voit pas le jour. Le BAP a simplement un pouvoir d'émettre des avis aux différents ministères, que eux, ils vont. La décision, finalement, revient au gouvernement dans son ensemble et pas au Bureau d'audience publique.
Faut venir informer les citoyens aussi.
Mais comme il s'est passé dans le dossier de Royal Nickel, tu sais, Royal Nickel, c'est un gros projet qui était un peu polarisant aussi, puis ils ont été, je pense, meilleurs que Sayona à ce niveau-là. Ils ont vraiment suivi les étapes correctement, puis bon, eux, il y avait un méga projet, là, ça, c'est sûr. Ouais. Maintenant, on ne sait plus trop ce qui arrive avec ça, mais.
Il attend que le prix du nickel en monte.
Je pense que ça a été gagnant pour eux autres, parce que la population leur a fait confiance au final. Mm-hmm. Puis bon, là, on sait pas trop ce qu'il y a.
Démarche. Puis tu sais, je pense que dans le cas de Royal Nickel versus Sayona, c'est la proximité de l'Escar.
Ben, c'est ça.
C'est sûr que la proximité de l'Escar, quand t'attaques l'eau à Amos.
Mais Alonay est très proche. On est très proche de l'Escar aussi, Alonay. C'est un peu. On n'est pas directement dessus, par contre. Là. Puis on est plus proche de la source d'eau, je pense, Alonay. Mais. Mais c'est ça. Eux, ils sont allés au bout du. Je pense. C'est ça. Moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment les premières consultations à la Motte. Toute la désorganisation que la compagnie avait, eux, c'est, clairement, ils savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. Je sais pas, tu parlais de professionnaliste, vous autres, c'était pas, c'était une démarche citoyenne, puis il y avait pas de personnes qui connaissaient ça vraiment. Ben, j'ai l'impression qu'eux autres non plus, je pense, là, ils arrivaient ici, puis.
C'était nouveau.
Ils sont arrivés un peu en cowboy, là, on a entendu ça, là, du candidat libéral, dernière campagne électorale, puis il y a eu un petit peu raison, là, et c'était un peu, genre, un peu de autant de la pas de la prohibition, mais de la ruée vers l'or.
Ouais.
Je sais pas trop, là.
Mathieu, c'est tellement de même qu'on l'a senti aussi. Puis, de notre point de vue, c'était un peu rassurant de se dire qu'on avait affaire à des professionnels mercenaires de l'acceptabilité sociale, dans ce sens où, tu sais, c'était pas trop stressant de notre côté parce qu'on arrivait avec la préparation qu'on pouvait, mais on se rendait bien compte qu'il y avait de la place pour dire les affaires qui n'avaient pas de bon sens. Puis ça, moi, je me souviens, là, à un moment donné, justement, c'était la première fois à la mode, c'était la date précise, c'était le 8 mars. Puis la journée de la femme. Puis c'était, dans le fond, il y avait une séance de kiosque, là, c'était la première fois, puis il y avait comme...
Personne s'attendait à ça, là.
Non,
personne.
Il y avait comme, il y a eu tellement un gros engouement, il y a eu 400 personnes dans la salle, mais là, la gang de Sayona était divisée dans chacun de leurs kiosques. Fait que finalement, il n'y avait plus d'informations qui pouvaient être accessibles. C'était vraiment là, puis les enjeux qui amenaient les 400 personnes dans la salle, c'était une préoccupation majeure.
Mm-hmm.
Puis ils n'ont pas été capables de répondre aux préoccupations, je pense. Puis ça, c'est leur bilan qu'ils devront sûrement faire, qu'ils ont peut-être déjà fait. Mais ce que je peux dire, c'est que eux, la compagnie Sayona Mining, tout au long de ce processus-là, s'est dit on va être capable de mener nous-mêmes nos propres consultations. Ils n'ont pas fait affaire avec des tiers en. Locaux là, ou spécialisés dans l'acceptabilité sociale, comme on peut le voir maintenant avec Gazoduc, qu'eux, ils sont associés, les services, puis même Canadien de Malartic, ils ont pris les services d'une compagnie qui se spécialise dans la fabrication d'acceptabilité sociale. Là. C'est eux-mêmes qui le disent comme ça, c'est vraiment épeurant. Mais dire, ils vont c'est une firme qui s'appelle Transfert Environnement et Société, qui est sur le terrain, puis dans le fond, sa job, c'est de rassembler des éléments pour démontrer au gouvernement que oui, la population veut de ce projet-là.
C'est des lobbyistes, dans le fond.
C'est pas Ben, c'est intéressant que tu amènes cette question-là parce qu'on pourra y venir plus tard avec la question de lobbyiste pour Sayona Mining. Mais, le lobbyiste, vraiment, c'est plutôt dans une perspective de relation avec des titulaires de charges publiques. Dans ce cas-là, ça serait des. Faut que ça soit des officiers publics, là, comme un maire, un conseiller municipal, un employé de l'État. Mais la compagnie Transfert Environnement Société dont je parle, elle, est là pour faire un lien avec la population. Mais c'est pas la population qui donne le permis. Là. Mais ils sont là pour, dans le fond, la compagnie Gazoduc, Canadien de Malartic, n'importe quelle compagnie extractiviste, vont se dire ben, on a fait affaire avec une firme indépendante, en guillemets, là, c'est ce qu'ils disent.
Puis, même si on les paye.
Puis eux, ils vont nous montrer, et eux, ils nous ont montré que la population veut du projet. Ceci dit, Sayona n'a pas fait ça, ils se sont dit on va le faire nous-mêmes. Fait, à tort ou à raison, aurais-tu dû engager une firme du style de transfert? Je suis pas là pour dire ça, c'est à eux de faire leur introspection. Par contre, nous, comme tu dis, on a eu affaire avec un soulèvement de la population qui avait besoin d'informations, puis je pense que la compagnie va être en mesure de les fournir, ces informations.
Parce que même après, ça a été extrêmement difficile dans les autres consultations. Moi, j'étais à l'atmosphère, je pense, 2 mois plus tard.
C'était le 27 juin.
C'était un petit peu plus la science avançait, plus on perdait le contrôle, on n'arrivait pas à répondre aux questions, l'animateur s'empêtrait dans ses... dans son contrôle de la foule, c'était vraiment difficile, puis ça, à la fin, c'était plus pertinent pour personne, ni pour les gens qui étaient là pour s'informer, ni pour la compagnie, ni pour...
Moi, dans ces situations-là, ce que je déplore, puis c'est pas la seule fois que c'est arrivé, mais pour avoir lu là, l'ensemble de la documentation que Sayona a rédigée suite à ces consultations-là, ils ont fait notamment un rapport de leur consultation qui fait 800 pages. Je les ai lus, ces 800 pages-là, puis quand ils reviennent sur la séance d'Amos, ils jettent un peu le blâme sur l'Assemblée. Alors que, genre,
c'est toi qui étais maître de cérémonie.
C'est toi qui gères ton Assemblée, tu sais. Puis c'est là où il y a eu un petit peu, dans la population, une amertume qui s'est exacerbée, je pense, à l'égard de la compagnie, on voulait juste des informations, on était voyant de les avoir de manière claire puis rassurante. Fait que c'est sûr que les gens qui sont peut-être un peu plus émotifs vont se laisser emporter, mais on peut pas dire que c'est la faute des gens qui sont émotifs. C'est normal d'être émotif quand il y a des enjeux aussi majeurs qui arrivent. Puis cette attitude-là d'une grande compagnie multinationale, multimillionnaire, qui arrive puis qui jette le blâme sur la population locale, on l'a revu la semaine passée. Gazoduc d'Alembert, ils ont dit qu'il y a des opposants qui ont monopolisé l'Assemblée, alors que c'est les gens de la population qui ont dit, nous, les gens qui étaient convoqués, là, les propriétaires, ils ont soumis une note d'invitation, qui ont dit, nous, on ne veut pas rentrer dans votre Assemblée si c'est juste vous qui donnez de l'information. On veut qu'il y ait nos amis, nos voisins, qui vont, le tuyau va passer à côté de leur cour, peut-être pas dans leur cour, mais à côté. Ils ont dit, ils ont droit à la même information que nous. On veut. Puis là, ben, c'est sûr que la salle s'est pactée, mais la compagnie ne peut pas se revirer de bord contre ces gens-là en disant qu'ils ont monopolisé la place. C'était leur volonté, tu sais. Fait que moi, c'est juste ça.
C'est les principaux concernés, au final.
Ben oui, puis on l'est tous aussi. Puis cette dynamique-là d'une compagnie qui veut implanter son projet, de localiser l'acceptabilité sociale, on l'a vu avec Sayona, on le revoit avec le gazoduc. C'est-à-dire, les seules personnes qu'on leur voit au chapitre, c'est les gens qui vont avoir la mine soit dans leur village ou le pipeline dans leur cour. Alors que c'est des enjeux de société plus immenses. Là, on ne peut pas remettre toute la pression sur les épaules des gens de la Motte pour avoir une mine à côté d'un escarre. Puis on ne peut pas mettre toute la pression sur les 60 propriétaires abitibiens qui vont avoir le pipeline dans leur cour. Ça, ça a été une grosse partie de notre action de mobilisation citoyenne, de soutenir ces gens-là, de démontrer que c'était, ils étaient pas tout seuls avec le fardeau. Puis, mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça nous a fait du bien qu'il y ait des gens avec un courage immense dans le village de la Motte qui se lèvent et qui disent « C'est pas juste la gang d'Amos qui veut un BAP, c'est des gens dans le village aussi. » Je pense que ça a été un game turner, mais ça met de la pression immense sur leur
parce que c'est sûr qu'en plus avec la situation de Sayona Mining, on a vu que l'électorat, disons ça comme ça, de la Motte aussi s'y montrait favorable. Je pense que c'était un but de montrer que la communauté de la Motte voulait se mettre de ce côté-là.
Il y a même un maire qui a démissionné, là. Il a jamais dit, il aura jamais dit que c'est à cause de ça. Ben oui, je pense, ben oui. Oui. C'est clairement à cause de ça, mais de là à dire que ton maire démissionne parce que ton conseil prendre des décisions en ton absence qui vont pas qui sont en tout cas qui prenaient pas en considération tout le dossier. Ça, c'est vraiment inquiétant. À partir de là, le conseil de la Motte.
Mais ça a quel impact sur la consultation? Comment que quand l'électorat de la Motte s'est positionné, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur votre organisme?
Ben, ça a été assez particulier parce que là, c'est ça, là, j'ai devant moi un document que j'ai constitué parce que en étant co-porte-parole, je me suis dit qu'il faut que je connaisse tous les dessous du dossier. Fait j'ai comme un peu lu tous les articles, j'ai remis ça, tu sais, puis sous forme de texte suivi. Fait que les dates, j'ai les en mémoire pas mal. Puis ce qui s'est passé, c'est que je pense que sans parler de trahison là, de la part du conseil municipal de la Motte envers leur population, c'est qu'ils avaient pris l'engagement au mois de mars de dire « Nous, on ne prendra pas position tant qu'on n'aura pas un rapport qui va nous être déposé par la Société de l'eau souterraine, qui considérait comme leurs experts. » Mais ils ont fini par prendre position avant que le rapport de la CESAT tombe. Eux, ils ont déposé leur rapport de la CESAT le 17 août. Ils ont pris position le 9 juillet. Pourquoi le 9 juillet? Mais ils se l'ont fait demander par la directrice du développement durable de l'époque de Sayona Maine, Anne La Montagne, qui a demandé au conseiller, en l'absence du maire, qui était parti en Gaspésie dans la famille à Sablon, sans l'aviser, ils ont pris une résolution pour appuyer la mine. Fait que là, le maire, il l'a su après coup. Et pourquoi le 9 juillet? Parce que le 10 juillet, on sait pas trop qui, de Sayona, a rencontré la ministre de l'Environnement libérale, Isabelle Melançon, dans l'espoir de la faire changer d'avis, parce qu'elle avait sorti quelques jours avant, le 29 août, pour dire « Moi, je vais demander un BAP si on est encore au pouvoir. » Là, la suite de l'élection nous a permis de comprendre que c'est pas elle qui a fait le call, mais ça vraiment comme... C'est pour ça que je voulais pas parler de trahison, mais tu sais, il y a comme un engagement qui a été brisé de la part des élus à l'égard de leur population en disant on va attendre que la science parle d'elle-même.
Y a-t-il des détails pourquoi ils ont décidé de changer leur fusil d'épaule à la Motte?
Moi, j'ai lu la résolution, puis ça fait... Écoutez, c'est rédigé dans un langage juridique là, impeccable. Je dis comme, en ce moment, je suis comme dubitatif de savoir c'est qui l'a rédigé, là, cette résolution-là.
On n'a aucune idée des discussions qu'il y a eu en arrêt de la table. Il n'y a personne à la Motte qui s'est prononcé pourquoi ils ont pris cette décision-là.
Il y a eu beaucoup de questionnements faits par la gang du comité citoyen qui voulait un BAP dans le village auprès des élus de dire « Qu'est-ce que vous avez fait? Là? C'est quoi cette affaire-là? » Mais je pense qu'à partir de ce moment-là, on parlait de la pression qui reposait sur les épaules du maire, mais c'est certainement là, qu'il devait sentir qu'il n'avait plus l'appui de ses conseillers, parce que lui, c'était dans le maire de l'époque, là, Louis-Joseph Fecteau-Lefebvre, c'était dans son approche de dire « On va favoriser les consultations citoyennes », puis ça s'est finalement développé sous un tout autre angle. Mais ça a fini par isoler le conseil municipal de la Motte, vraiment, dans leur position d'allié indéfectible de la compagnie minière qui essaie de se substituer aux évaluations environnementales. Enfin, ça les a pas servis, finalement. Quand l'ensemble du Québec a demandé un BAP puis qu'eux, ils restaient solidement ancrés dans leur volonté de pas en avoir un, ça faisait un peu malaisant. Mais c'est ça. Puis moi, j'irais peut-être même, parce que je suis pas de là, mais je l'ai vu sur Facebook allègrement, des conseillers, le maire de la Motte qui prenait fait et cause sur Facebook pour un peu toute sorte d'argumentation qui émanait soit de la compagnie ou d'autres gens qui étaient en faveur de l'évitement du BAP. Fait que c'était malaisant. Je vous dirais que ça s'est exacerbé dans les dernières semaines. Puis, my God, ça fait du bien.
Parce qu'il y a un groupe citoyen aussi qui s'est quand même, à un moment donné, mobilisé un petit peu avant votre mobilisation à vous autres. Qui a essayé de justement d'appuyer le conseil, je sais pas trop, pas d'où ça partait tout ça.
Les pros Sayona maintenant.
Ouais, c'est ça, des pros Sayona
qui
se sont regroupés. Mais là, il y avait une photo qui était 8 dans un garage, je sais pas s'il était plus que ça pour vrai, mais la photo était pas vraiment éloquente, là, je sais pas.
C'était eux puis les amis de la meute.
T'sais, puis c'était la même gang que moi, je passais de manière, il était sur le coin de la route 109, au coin de l'entrée du village, puis il était comme une trentaine.
Il brûlait des arbres entiers, mais c'est un comité que nous, on n'a pas vraiment eu de relation avec eux. Ouais. C'était clair qu'on avait des positions divergentes. Je pense que
c'est correct.
Nous, on n'était pas là pour faire que tout le monde doit avoir la même position que nous. Mais je pense que la force du nombre là, faisant en sorte que on était largement appuyés là, dans nos
revendications. Parce que la marche à Amos, ça devait être fou, ça. Là. C'était...
Je vous dis, là,
je suis déçu, je ne vais plus être là.
Il y a eu 250 personnes. C'est l'équivalent à Montréal dans toute proportion gardée, là, qu'on, il y aurait eu 200 rebelles de remplis, tu sais.
C'est 250 personnes mobilisées à Amos, pour une marche.
Puis je me souviens pas de ça, honnêtement. Puis ce qui est surtout marquant avec cette marche-là, c'est que c'était une marche pour le BAP, après que le ministre a dit « je vais le passer au BAP, ce projet-là ». Fait que ça montrait... Mais ça, c'était sous la condition que la compagnie laisse son projet tel quel. Ouais. Elle avait encore... Finalement, le ministre n'a pas dit « ce projet-là, no matter what, qu'est-ce qui se passe, j'utilise mon pouvoir discrétionnaire ». Il a plutôt dit « si je lance la balle à la minière, grand bien lui fasse si elle veut diminuer son tonnage, qu'on invite le BAP. Mais moi, je suis d'avis que ce projet tel que présenté doit être soumis au bureau d'audience publique. » Fait à un certain point, pour nous, ça a été comme rassurant de voir que la population était demeurait vigilante, t'sais. Même après cette annonce-là, un peu, qui n'était pas une déclaration nette et claire. Là,
C'était pas terminé.
La confiance des gens envers nos gouvernements n'est pas si grande que ça, donc probablement que c'était justement pour clarifier encore plus.
On va pas s'asseoir sur nos lauriers. Pousser jusqu'à temps que ce soit confirmé.
La victoire des potes.
Parce que ça a été long. C'est ça que moi j'ai remarqué aussi. L'élection a passé, puis le ministre, il y a eu un changement de ministre, évidemment.
On a eu trois compliqué. Ministres d'environnement dans ce
dossier. Ça a été un petit peu long, puis on repousse la décision, puis plus on repousse la décision, plus le dossier se polarisait, puis ça devenait, les opposants, ça devenait émotif comme débat. Fait qu'il fallait qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un, qui est, je pense, le ministre de l'Environnement, qui est la meilleure personne, qui devait faire ça. Puis je pense que ça a été bien fait dans le contexte, même si ça a été un petit peu plus long.
Mais écoutez, ça a été bien fait, mais... Puis je suis pas là pour insister sur tous les détails qui ont mené à ça, mais faut se rappeler quand même qu'il a fallu que j'envoie personnellement une mise en demeure au ministre de l'Environnement. Mm-hmm. Puis il est pas allé de son plein gré.
C'est une mise en demeure au ministre?
J'ai envoyé une mise en... Ben, la réponse, c'est que, dans le fond, j'en ai envoyé la mise en demeure à la fin février.
Ouais.
On lui a donné 10 jours pour qu'il soumette le projet au BAP. Puis après à la huitième journée, je me suis réveillé le matin avec un appel de l'adjointe du ministre de l'Environnement.
Il aimerait ça te parler.
dire, regarde, on te le dit avant d'émettre le communiqué, mais on passe le projet au BAP. J'ai dit, pourquoi? Elle a dit, pour les raisons évoquées dans la mise en demeure. Fait que finalement, la mise en demeure a fait la différence. Mm-hmm. Mais, tu sais, qu'est-ce qui a mené à la mise en demeure? Bonne question, c'est quand que la compagnie minière, le 20 décembre, a déposé son projet au ministère de l'Environnement, à l'époque, on savait pas que la compagnie dépassait le seuil de 2000 tonnes par jour. Ouais. Parce que, petite histoire, un retour là, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est que il y a eu une modification à la loi sur les mines en 2013. Puis la loi puis les règlements associés. Puis
il y a... Marois, Martine Ouellet.
Exactement. Puis ça, c'est une réforme qui était très attendue dans le domaine minier. Puis là, encore une fois, à l'époque, la question de se dire, est-ce que les mines... Toutes les mines devraient être soumises au BAP. À l'époque, faut se rappeler, c'était l'exception que les mines passent au BAP. Mm-hmm. Fait que là, pour couper la poire en deux, parce que les groupes environnementaux demandaient à ce que tous les projets passent au BAP. Moi, si vous me posez la question, je pense que c'est la décision qui devrait être cohérente dans un souci de préservation de l'environnement, parce que, comme on peut s'en douter, une mine qui a un faible tonnage pendant une longue durée peut avoir un plus gros tonnage au bout du compte, puis un plus gros impact sur l'environnement qu'une grosse mine sur une petite durée. Puis même à ça, tout dépend de la localisation de la mine.
Mais en même temps, tu l'as dit aussi, le BAP fait pas en sorte que ça passe ou ça casse. Là, c'est juste d'informer puis voir c'est quoi réellement les problématiques ou les démarches. Puis après ça, les ministères vont pouvoir se positionner par rapport à ce rapport-là.
C'est en plein ça.
Ça n'empêche rien. Oui, des délais. T'sais, ça va ajouter des délais parce que c'est un rapport à produire, mais sinon, pour l'accessibilité... pas l'accessibilité, mais...
Mais ça, c'est des bons points de l'accessibilité
sociale. L'accessibilité sociale. que ce soit accepté par la population, mais je pense que...
C'est ça, accessibilité sociale. Ouais.
C'est le meilleur chemin, je pense. Une compagnie devrait le faire de
pour montrer de son plein fois. Gré. Mais... C'est pour montrer une bonne foi. Nous, on va implanter une industrie, on va vous montrer que on va faire les efforts pour l'environnement, puis je pense que c'est juste logique de faire ça.
Puis je vous donne un exemple, puis la mine à l'époque c'était Québec Lithium, mais qui était à la Corne, puis à l'époque, avant la réforme Ouellet, c'était le seuil était de 7000 tonnes par jour. Cette mine-là a passé tout juste sur le seuil, là, fait qu'à 6500 quelque chose tonnes par jour. Puis, mais maintenant, le gisement, la proportion de la mine a grimpé de 40%. Fait que c'est pas fixé dans le temps non plus. Là, quand tu dis on veut extraire 6500 tonnes par jour, ben il y a rien qui t'empêche de l'augmenter après. Fait qu'au final, ta mine, c'est plus une mine d'exploitation de 6500 tonnes par jour qui aurait dû passer au BAP, c'est une mine avec un beaucoup plus gros tonnage par jour. C'est ce qu'on voulait éviter dans le cas de Sayona Mining. Mais juste pour revenir à la réforme Ouellette, c'est que là, les groupes environnementaux disaient tous les projets doivent être soumis au BAP. L'Association minière du Québec, qui est un puissant lobby, disait « Non, on laisse ça tel quel. » La ministre a coupé ça en deux, a dit « On fixe ça à 2000 tonnes. » Or, le projet Sayona Mining, c'était le premier qui se présentait à la population avec une espèce de tonnage tout juste sous la barre des 2000 tonnes par jour. La compagnie prétendait à l'époque extraire 1900 tonnes par jour. Puis là, moi, c'est là où qu'arrive l'idée derrière la mise en demeure, c'est que quand la compagnie a déposé finalement sa demande de permis d'exploitation, fait que c'est un certificat d'autorisation environnementale, moi j'ai fait une demande d'accès à l'information, puis j'ai demandé qu'ils nous envoient tous les documents qui étaient annexés à la demande de permis d'exploitation, puis quand on les a reçus, ça a été long aussi, il y a une question de délai là, que ça n'avait pas de bon sens, mais quand j'ai fini par les recevoir, j'ai lu les 2700 pages, puis à un moment donné, je suis tombé sur un tableau qui indiquait clairement qu'il allait dépasser le 2000 tonnes par jour. Mais ça, c'était des documents que le ministère des Ressources naturelles, dans le fond, le gouvernement, avait en sa possession depuis le mois de septembre, minimalement, puis voire même juillet. Fait que ça n'a pas de bon sens qu'un citoyen doit faire une demande d'accès à l'information, puis de passer à travers tout la documentation peigne fin pour se rendre compte de ce que le ministère s'avide depuis des mois.
Même le fonctionnaire l'a probablement pas fait.
C'est fou, là. Puis, est-ce que la question, est-ce qu'il l'a pas fait? Est-ce qu'il y a eu genre de... comme il y a... Puis parallèlement à ça, on sait, le ministre de l'Agriculture, je pense Monsieur Lamontagne, André, il y avait des allégations comme quoi qu'il y avait eu... bon, une tentative de taire là, un de ses fonctionnaires en lien avec des dénonciations là, perturbantes avec les pesticides. Puis c'est tout ça
arrivé. Alarmant.
Tout ça arrivé au même moment, tu sais. Puis de se dire, ils ont les documents qui indiquent qu'ils vont dépasser depuis des mois. Il y a une forme de complaisance qui se déroule, qui se trame. Nous, on a cette information-là. Qu'est-ce qu'on fait?
Parce que ce dépassement-là, c'était après, je pense, 5 ans de vie de la mine.
Oui, ou... c'était à la 7e année.
7e, c'est ça.
Puis là,
ça... c'est clair, c'est comme toutes les durées des mines. Une fois que t'as fait 4-5 ans, ben là, t'es plus rentable, t'as fait tes investissements, tes infrastructures sont payées. Donc, tu peux exploiter davantage, engager plus de monde, plus de machinerie pour creuser plus. C'est ça.
Puis à la base même de notre système capitaliste fondé sur la croissance économique, on s'entend qu'une mine ne va pas rester en opération stable pendant 20 ans, tu sais, c'est comme, ça serait prétendre le contraire de l'effectivité du déroulement d'opérations de l'industrie minière en général. On le voit, il y a toujours une augmentation du tonnage en général. Fait que nous, on n'était pas naïfs à cet égard-là, mais quand on est tombé sur la donnée, là, tu sais, puis qu'on l'a fait, on a demandé à des experts qui nous confirment que c'était bien ça. Je vous jure, là, on était dans une situation, on disait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, est venue la seule option qui s'offrait à nous, c'est-à-dire on fait une mise en demeure en bonne et due forme. C'est sûr qu'on a engagé des avocats spécialisés là-dedans, tu sais, puis là, on a une belle collaboration que je dois souligner avec le Centre québécois de droit de l'environnement, là, qui est le seul cabinet qui se porte à la défense de l'environnement de manière indépendante. Ce qui veut dire, dans le fond, c'est pas un contentieux au sein d'une compagnie, c'est pas non plus un cabinet qui reçoit des mandats de l'industrie, là, c'est vraiment, il se porte à la défense de l'environnement, comme un peu dans nos circonstances à nous. Mais c'est ça. Fait que bravo, le ministre, d'avoir répondu à la mise en demeure. Là. Tu sais, c'est quoi? Il faut qu'on le remercie de nous avoir poussé dans nos derniers retranchements.
Merci de m'avoir porté en cours, de m'avoir forcé à t'amener en cours.
C'est intéressant.
Parce que, comme je disais, ça a été long, ça a été. Il aurait pu prendre cette décision-là vraiment plus rapidement, surtout que, bon, en campagne électorale, il y avait un consensus. Là, les deux députés qui étaient élus à ce moment-là. il y avait consensus, je pense pas Émilie de Santarin qui se serait opposé à ça, donc dans la région, il n'y avait pas de raison que ce soit aussi long, probablement que je me... En politique, moi, en tout cas, moi, ce que je comprends, c'est que plus t'étires les dossiers, plus généralement, tu vas gagner, mais là, c'est clairement pas ça qui s'est passé.
Non, ben, il y a une belle surprise, là, ça veut dire qu'il va falloir que t'amènes les responsables du gazoduc aussi avec une mise en demeure.
Non, mais honnêtement, c'était pour moi assez malaisant là, de faire ça, puis je n'en tire aucun plaisir, là, puis ben, moi... C'est une certaine forme de pression, là. C'est pas un secret, là. J'étudie en droit aussi, puis tu sais, j'aspire à être avocat dans le futur, puis là, je suis même pas encore... j'ai pas encore été au barreau, puis j'envoie une mise en demeure au ministre de la Justice.
Ça commence à caresser un rail.
Ben, non, mais dans le sens, quel job m'a fait plus tard?
Faudrait que c'est un peu comme Marshall dans How I Met Your Mother.
T'as-tu peur de te faire des ennemis, puis de ternir ton nom en droit avec ça?
Moi, j'observe juste un élargissement d'un réseau de collaboration immense, puis de tu sais, c'est tout ça là, ça, je veux dire, ça a été quand même salué par plusieurs groupes sur la scène provinciale. Moi, j'ai pas de peur pour mon nom, au contraire là, je pense que c'est ça n'en prend là, du monde qui dit hey, ça a pas de sens,
puis ça y en a, cherche un bon avocat,
mais
il y a le dossier entre les mains.
En tout cas, moi puis ça, c'est quelque chose que je peux démontrer aussi, là. J'ai reçu un message en ce sens là, de Mme de la Montagne, là, justement, de développement durable de Sayona. C'est sûr qu'ils auraient préféré m'avoir sur leur bord, mais ça, c'est. J'étais pas là, là, tu sais. C'est
fou. Il y a une ouverture, je pense, par exemple. Là.
Ah! Non! Mais. Moi, c'est ça qui m'attire pas, je pense, dans la scène de la mobilisation environnementale, c'est la pression de l'industrie puis les moyens financiers de l'industrie comparativement à nous autres, là, on était à part des valeurs puis
dans tous les dossiers dans tous les dossiers activistes, c'est tout le temps l'industrie versus la population. La population n'a jamais les chiffres d'affaires que la corporation a pour se backer. Si tu penses à des affaires, non, je veux pas aller là-dedans, mais les Mosanto de ce monde puis ces affaires là qui font des destructions,
non, en plus méthode c'est dépense, c'est considéré comme une dépense dans le projet là. Donc c'est déjà
budgété,
c'est déjà budgété.
Exact. Et les mercenaires de l'accessibilité sociale, on vient encore avec ça là.
Ouais, fait des équipes de pub, rajoute nous pas des séances puis des affaires de même, on n'a pas d'argent pour ça là, on a déjà prévu ça fait que ça va être ça, mais il faut que tu t'adaptes plus que ça, parce que sinon ça donne une espèce de cafouillage qu'on a eu dans la dernière année 2018 là, avec Sayona.
Mais là, t'as parlé du gazoduc un peu tantôt, est-ce qu'il y a y a-t-il un collectif qui est en arrière de ça aussi?
Parce que là, on est un peu dans la même étape qu'on était il y a un an avec Sayona, là.
Ça commence le même combat, là.
Puis je finira jamais.
Je cacherai pas une certaine fatigue qui s'installe.
Christophe, on me dit bien.
On n'a pas eu grand break, mettons, entre les deux. Mais moi, je dirais que ça a été... Merci. Non, ça a été un cadeau du ciel, mais en même temps, c'est fou de dire ça, là, mais que Sayona soit arrivé avant Gazoduc, parce que ça a démontré la capacité de mobilisation de la population, puis il y a comme un réseau de sympathisants, sympathisantes qui s'est créé, puis là, on observe, puis c'est bien normal, qu'il y a un partage des motivations au sein de la population associée au fait de dire la lutte, on peut la transférer d'un dossier à l'autre. En ce sens que c'est, premièrement, pour l'ESCAR Saint-Mathieu-Berry, c'est relié parce que le gazoduc va frôler la mine. Puis qui frôle le
C'est fort comme symbole, là, quand même.
C'est fou, là. Un gazoduc qui va transporter genre des millions de mètres cubes de gaz à côté d'une mine.
De l'Ouest canadien,
Ouais, exact. Ouais, de l'Ouest, okay. ça passe une bonne marge du Canada.
Traverser le Canada au complet. Là.
C'est ça. Puis tout le réseau est déjà construit jusqu'à l'est de l'Ontario, Matheson, qui est proche de l'Abitibi. Puis de là, ils veulent construire un pipeline de 782 km jusqu'à Saguenay pour ensuite acheminer en fait en gaz naturel une grosse usine qui va être aussi un port. Puis qui va transformer le gaz en liquide, en faisant en sorte qu'on va prendre le gaz et on va le mettre à des températures très froides, là, moins, plus, moins que 200 mm-hmm. degrés Celsius sous zéro. Puis pour le rendre sous forme liquide, ils vont le mettre dans des espèces de conteneurs qui vont stocker sur des cargos immenses, plus gros que le Titanic, qui vont sillonner le fjord du Saguenay, qui est un joyau. Puis un joyau. Puis il va ça va passer dans le sanctuaire de la pouponnière des bélugas, mm-hmm. qui est une espèce en voie de disparition. Qui
on s'est déjà positionné pour ces bélugas-là, d'ailleurs, qui sont en voie d'extinction.
Exactement.
Ils sont, protégés.
Puis tout ça dans un parc national marin.
Ouais.
Et qui va être destiné à cheminer l'Asie. Mais là, c'est du gaz qui arrive de l'ouest,
de
qui
l'ouest.
Passe à travers toute l'Abitibi,
on veut l'amener au Saguenay, juste pour pouvoir l'amener par bateau.
Puis du bateau au Saguenay, un coup qu'ils vont avoir réussi sans exploser à traverser le Saguenay, arriver dans le Saint-Laurent, contourner l'Amérique par le canal de Panama pour traverser les plus grands océans du monde pour acheminer l'Asie en gaz.
Il aurait pu aller de l'autre côté.
Il aurait pu, mais là, ils font face à un certain front, puis ouais, on peut les comprendre.
Ils ont perdu leur combat.
D'opposition
oui, c'est vrai, oui.
Dans l'Ouest. Mm-hmm.
Colombie-Britannique qui s'est dressée.
Exactement, mais... Puis là, il faut qu'on précise quelque chose. Un gazoduc puis un oléoduc, c'est la même affaire, c'est un pipeline. Ouais. Un mm-hmm. pipeline, c'est la définition de pipeline comprend autant les gazoducs que les oléoducs. Pourquoi? Parce que de simples opérations là, de techniques peuvent permettre de faire passer du gaz ou du pétrole dedans. Fait, autrement dit, là, ce qu'il nous présente, c'est un projet de gazoduc, mais dans 10 ans... Ça pourrait être du pétrole. Mm-hmm. Puis ça, je vous l'annonce, ça va passer dans l'Abitibi, sous la Ricana, sous la Kinojévis. C'est débile. Puis ici, on est bien placé parce que ça va passer à côté du lac Pressac. C'est, mm-hmm. Tout ça, c'est relié. Puis moi, en venant ici, c'est à ça que je pense, c'est sûr. Mais là, on parlait de la mobilisation citoyenne tantôt, c'est que c'est immense. Là, on faisait affaire avec Sayona à des millionnaires. Là, on fait affaire avec des milliardaires. Mm-hmm. La coche, on la
c'est
sent.
Qui l'ennemi numéro un dans notre dossier, là?
En gros, c'est des fonds d'investisseurs américains. Là. C'est des riches américains qui s'appellent Breyer et Illich, mais qui sont...
Breyer.
C'est ça.
C'est les mêmes que les Midi-Canada.
Ils ont déjà leur fortune déjà qui va servir à financer là, le principal du projet. Mais là, ils n'ont même pas encore passé l'évaluation environnementale qui ont déjà une armée de lobbyistes pour aller chercher des subventions, des déductions fiscales. Autrement dit, nous demander à nous, là, la population, qu'on paye le projet à leur place. Ça, c'est ce qu'on observe. Puis ça, c'est le big picture, mais tout ça dans une dynamique canadienne un peu fucked up, à ce sens où l'Alberta, la Saskatchewan et les provinces qui fondent leur économie presque exclusivement sur les ressources fossiles, ils sont poignés avec parce que plus personne dans le monde les veut. Puis l'Ouest canadien, la Colombie-Britannique, veut pas contribuer à cette catastrophe environnementale. Fait que là, ils se tournent vers le Québec, ils mettent de la grosse pression sur le gouvernement Legault. Puis comme on a déjà réglé le dossier de dire qu'il n'y aura pas d'oléoduc, il n'y aura pas de pétrole qui va transiter par notre province, cependant, c'est pas vrai, non? On se dit qu'il y a déjà une ligne qui achemine du pétrole puis canadien.
On s'en dit qu'il n'y aura pas de nouvelle ligne.
Mais c'est ça, mais on voudra pas une nouvelle ligne de pétrole, mais là, on essaie de nous faire dire que, ben regarde, je suis allé pas trop, là, parce que ça pourrait être du pétrole, mais à la place, c'est du gaz. Mais ce gaz-là, c'est du méthane. C'est du méthane. Puis le méthane, on le sait, on pense à l'industrie bovine, c'est responsable largement de la création de gaz à effet de serre. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre 25 à 80 fois, dépendamment de la durée sur laquelle tu l'apprécies, fois plus nocif pour l'environnement en termes de gaz à effet de serre que le CO2. Puis c'est ça qu'on va faire transiter de manière... inimaginable là, par l'Abitibi. Moi, c'est juste, encore une fois, puis faut pas comme tomber dans, faut rester dans le factuel. Moi, ce que j'ai appris de la mobilisation citoyenne, c'est que c'est pas en alarmant les gens avec des fausses affirmations qu'on va réussir à rallier les gens, mais il faut insister sur le fait que ce projet-là n'est pas un projet de transition énergétique. Le gaz naturel, c'est une énergie fossile. Puis les énergies fossiles, il faut que ça reste dans le sol. Il faut qu'on se tourne vers d'autres sources d'énergie. Puis là, on est en train de nous dire, non, mais c'est important parce qu'il faut qu'on remplace les centrales au mazout et au charbon dans les pays en développement par notre gaz naturel qui est moins pire, mais qui est pire quand même, et qui est moins pire que le charbon.
Mmh, tellement d'autres alternatives. Hein?
Cependant, exactement, puis cependant, il n'y a rien qui garantit que ces pays-là vont changer leurs centrales au mazout et au charbon par du gaz naturel. Puis l'autre affaire qu'il faut juste souligner, c'est que pour aller jusqu'en Asie, ils vont pas y aller en bateau propulsé en éolienne. Ça va être des bateaux, des cargos au mazout.
Avec un gros câble, puis ils vont tirer
le bateau. Ouais, bien non, non, c'est vraiment comme il dit, c'est juste plein de Japonais qui sont arrivés avec des... Yes! Oh, yes! Si seulement.
Mais
en tout cas... En plus, c'est prouvé qu'il y a plein de styles d'énergie. Tu sais, on parle de l'hydro... Ben, l'hydroélectricité, mais aussi les panneaux solaires, là, qui sont de plus en plus efficients, puis efficaces, puis coûtent moins cher à produire qu'avant, puis que... avec la production de ces... panneaux-là, mais ils font plus d'énergie. Je comprends que nous, mettons, au Canada, on est quand même mieux placé que d'autres pays en développement. Mais quand même, si c'est plus... si ça coûte moins cher pour le Canada d'avoir des panneaux solaires aujourd'hui que d'avoir des... Mettons, même pour l'impact environnemental, que des usines pour faire de l'électricité avec des gaz ou avec du pétrole, mais pourquoi pas qu'on pourrait implanter ce même principe-là dans les pays en voie de développement?
Mais les compagnies vont toujours utiliser le même principe là, que pour arriver à la transition écologique, on ne doit pas négliger les productions de gaz et de pétrole. Je vais te donner des coups à la table.
Moi, je mets mes mains en dessous.
Ouais, c'est ça.
Mais tu sais, c'est toujours ça l'argument majeur. Ils disent que oui, on est en transition écologique, mais nous devons continuer de prendre nos responsabilités en termes de pétrole, et etc. Surtout pour les provinces canadiennes comme l'Alberta et la Saskatchewan qui ne jouent que par ça. Mais c'est la principale exploitation, on s'entend, à part ils ont des champs, mais les champs c'est pas aussi bien que ça a déjà été, on s'entend.
Dans ce sens, on peut peut-être faire un parallèle, tu sais, autant avec la cigarette, là, tu sais, on sait que c'est néfaste.
Ah, c'est néfaste, pas en tout tailleur.
Dit le fumeur. Mais tu sais, on peut faire un parallèle, tu sais, on sait que c'est poison, on sait que c'est pas correct, on sait que ça crée une dépendance, il y a rien de positif à fumer, à part un fumeur va trouver ça positif à fumer. Puis on permet très encore relaxant. Cette vente-là. C'est
très... Tu trouves ça très pertinent en ce moment, puis tu t'en rends pas compte. Tu t'arracheras la tête.
Mais tu sais, c'est un peu dans le même principe. Tu sais, on voit encore, on a encore besoin du pétrole pour le textile, plein d'affaires. Mais dans le fond, on n'a pas tant besoin. Puis là, après ça, c'est dans des natures capitalistes. On veut faire de l'argent. Puis les gens qui ont investi des milliards de dollars dans ces infrastructures-là veulent pas perdre. T'sais, à la limite, on n'a plus besoin de tout ça, mettons, pour les véhicules. On peut utiliser d'autres sources d'énergie, mais on va avoir quand même besoin du pétrole pour un bout, tu sais, toujours dans le textile, de développer des plats de plastique réutilisables, tu sais, des trucs comme ça. Je pense pas que l'industrie va mourir demain. Là.
Non, mais l'industrie va perdre des sous, c'est ce qui l'a fait peur.
Ouais.
Dans un milieu capitaliste comme on est, mais c'est ça, c'est ça qui arrive. C'est la perte économique, puis c'est les
Mais c'est ça, moi je reviens toujours, je sais pas si vous étiez au show de l'Esprit Libre, oui, tout était là,
j'étais là,
le show d'humour de l'Esprit Libre, à petite bouteille, puis Fred Dubé, qui complétait la soirée, a dit, tu sais, la société a réussi à nous faire croire que la transition écologique, ça passait par l'humain, tu sais, oui, puis chaque personne, nos petits gestes sont importants, mais dans le fond, c'est tout le système capitaliste qui est le problème. Puis bon, c'est sûr que bon, c'est Fred Dubé, on le connaît, là, il est comme ça, mais il a raison, tu sais, parce que ça prend des changements majeurs, là. Oui, moi, je peux ramasser puis avoir ma petite bouteille d'eau réutilisable au lieu de prendre mes bouteilles de plastique. C'est sûr que ça va faire une différence, mais ça prend un changement plus marqué et rapide. Là.
D'obliger la population, mettons, à recycler ou à faire du compost, c'est une chose, mais c'est peut-être 20% de l'utilisation, mettons, des achats ou de la consommation. Mais si tu n'exiges pas ça des entreprises puis des industries, ben ça change pas grand-chose.
Mm-hmm. Nos grandes compagnies, nos grandes oligarchies ont un rôle à jouer aussi.
Puis en même temps aussi, quand tu fais ton recyclage, là, quand tu regardes au bout du compte qu'est-ce qui est vraiment réutilisé puis recyclé, tu sais, il y a un tri de fait. Puis dans ces matières-là, c'est pas 100% qui va être... c'est pas 100% du papier qui va être réutilisé, c'est pas 100% du plastique qui va être réutilisé. Il y a une partie qui va être jetée parce que pour X raisons.
C'est pour ça qu'il faut être le plus possible zéro déchet pour tout garder nos affaires le plus possible.
Ce qu'on devrait faire, c'est peut-être attendre... On devrait peut-être juste prendre un lac qui est vraiment profond, on l'assèche, là, on met l'eau ailleurs, puis on remplit ça de déchets.
Ouais, on prend le lac Fombol, le lac Chassignol en arrière.
Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord.
Flore est surtout pas d'accord.
Je pense,
pas d'accord. Ça va un peu, par exemple. Je pensais ça, tu sais. quand on parle des gazoducs, quand on parle de
ce qui se passe en ce moment. C'est toute la... on parle beaucoup
des... Je pense pas qu'on s'éloigne, parce que ça me fait vraiment plaisir de vous entendre, parce que c'est vraiment ça, c'est ce changement de paradigme-là qu'il faut qu'on, on propose, parce que là, il arrive un point, mettons, dans notre mobilisation, comme je disais, qui se transpose de Sayona à gazoduc, que ces gens-là, leur but dans la vie, c'est pas de bloquer des projets, hein. C'est de participer à quelque chose de différent, tu sais, puis un mode de société responsable, cohérent, tu sais. Puis je pense que c'est ça, moi, que je vois sur le terrain, mais honnêtement, quand que je vois les gens qui sont dans la machine étatique, puis à tous les niveaux, commencer par le niveau municipal jusqu'aux plus hautes instances, j'ai l'impression qu'ils sont pognés. Moi, toute cette année qui vient de passer avec Sayona, Celle, Avenir et Gazoduc, je vous le dis, je suis tellement content d'être dans une position où on est libre de dire ce qu'on pense, on est libre d'agir, de rallier des gens. Mais j'ai pas l'impression que les gens qui sont en position de élective, là, qu'on a porté au pouvoir, sentent qu'ils ont la légitimité de poser des véritables actions de changement sociaux. Mm-hmm. Je trouve ça triste. Tu sais, là, on l'a vu cette semaine, Luc Ferrandez, qui est quelqu'un, un élu là, à Montréal, qui a été comme de longtemps, là, une espèce de fer de lance du développement durable citadin, à une échelle que nous, en Abitibi, on peut pas s'imaginer, là, les changements énormes qu'il a fait dans son petit quartier bétonné, là, mais ça a eu un impact quand même favorable, j'ai l'impression, dans la lutte contre les changements climatiques. Mais ici, en région... Notre région s'est développée sur un modèle d'exploitation des ressources naturelles. Puis on est encore largement tributaire de ça. Mm-hmm. Par contre, il y a des gens comme moi, puis je sais pas que faisaient vos parents, mais mes parents sont arrivés, puis ils venaient de l'extérieur, ils ont travaillé dans le domaine de la santé. Fait que moi, c'est pas inscrit dans ma lignée, si on peut dire, d'avoir une relation d'exploitation de l'environnement, de la planète, des ressources naturelles. Mais ce que je vois, c'est que même des gens qui sont issus de telles lignées, que ce soit des défricheurs, des colonisateurs, des gens qui ont travaillé dans les mines, des gens qui dans le bois, je sens qu'il y a un mouvement de dire, ben là, tabarouette, pour être cohérent en Abitibi avec la lutte globale contre les changements climatiques, puis pour la préservation de la biodiversité, il faut qu'on revoie nos façons d'interagir avec l'environnement en Abitibi. Puis je le sens, puis je pense qu'on est capable, puis je suis certain qu'on est capable, parce qu'on a la force de se connaître. Comme je disais tantôt, ce qui est tough, c'est d'arriver à aborder tout le monde, en incluant tout le monde, puis en disant, on a une meilleure manière de vivre ensemble que ce qu'on fait actuellement, puis ça inclut la protection de l'environnement. Passer d'un paradigme d'exploitation de l'environnement à protection de l'environnement, de restauration de sites miniers abandonnés, de se dire on est capable de dire non à différents projets qui vont largement polluer la planète. Faut qu'on s'enligne dans cette direction-là. Mais ça, c'est tough pour des élus qui sont ici puis qui sont un peu tributaires de la taxation issue de ces grosses compagnies-là. Fait que de dire non à ça, c'est quoi, tu sais? On n'aura plus de première avenue à Amos.
L'embarque pas là-dedans,
là. Ça, c'est un scandale, on y touche pas. Ça va trop loin. On a nos limites. On peut parler du gazoduc, on peut parler de la corruption du gouvernement, mais la première avenue à Amos, on n'en parle pas.
Je pense à l'industrie forestière des années 80, quand ils ont fait une usine de transformation du papier, là. La forêt, l'Abitibi, c'était on coupe des arbres, puis on fait du bois, on fait du 2x4, c'est tout. À la limite, on le transforme en 2x4, mais là, on est allé une coche plus loin avec le papier et tout ça. Mm-hmm. Fait que les mines, malheureusement, ça n'a pas suivi, puis je sais pas pourquoi. Et puis, bon, on exploite pas mal plus. C'est sûr qu'on est plus dans l'or. Fait que là, l'or, on le coule, puis on l'envoie à la Banque mondiale, là, je sais pas, à la Banque du Canada. Là. La deuxième transformation, ça serait intéressant, parce qu'on aurait peut-être pas besoin autant de creuser. On pourrait vivre comme région en transformant le lithium, justement. Ça, c'est un exemple. Là. Je sais que la corne avait des projets de deuxième, troisième transformation. Ben, jusqu'à un certain point, ça s'est discuté, mais parce que c'est ça qui réglerait leur problème, parce qu'ils n'ont pas de clients, ou en tout cas, ça devient compliqué de le transporter, puis tout ça. Puis le transport, c'est pas éco-responsable non plus, c'est pas environnemental. Donc, si on est capable d'y aller vers la deuxième, puis de la vraie deuxième et troisième transformation, ben là, ça va devenir intéressant pour l'Abitibi parce qu'on va créer des jobs non seulement dans l'exploitation, mais dans la transformation. Puis quand il arrivera un projet d'open pit qui n'a pas de bon sens, ben on n'aura même pas de misère à dire non. T'sais. Non, ça ne deviendra même pas émotif. On n'en a pas besoin. T'sais.
Moi, je trouve ça drôle qu'ils disent qu'on est pas capable de dire non. On est plein de ressources. On a plein de mines qui sont en exploitation. Même si on a des filons qu'on laisse attendre, puis qu'on laisse les compagnies baver dessus. Laisser le reste du monde vider le coffre. Je suis pas pour ça techniquement, mais on n'est pas obligé d'être pressé. Ouais. On est assis sur une mine d'or.
Juste le gisement de Sayona, là, ce gisement-là, il y a des forages là, sur ce site-là depuis des années. C'était une autre compagnie, je me souviens pas, je pense que c'est Glen Eagle Resources qui exploitait, puis on n'entendait pas parler autrement que, bon, une fois de temps en temps, ils faisaient un communiqué de mise à jour. Ça n'a jamais levé, puis je pense qu'ils ont vendu à Sayona, ou en tout cas, il y a peut-être une autre compagnie entre ça. Mais
pour qu'est-ce qu'il y a des mines, c'est beaucoup de l'opportunisme. Là. C'est est-ce que je suis capable, mettons là, le marché de tel métaux est assez élevé, maintenant c'est rentable d'aller chercher ce métaux-là, parce que je suis pas mal sûr que pour une bonne partie du Québec, toutes les claims miniers sont déjà, il y a déjà plein de prospections de fait. Donc après, c'est juste, bon, ben on sait qu'il y a telle valeur-là sur tel territoire, puis maintenant, OK, ben là, c'est là qu'il faut aller chercher. Donc, c'est pour ça que les projets passent assez rapidement. Puis, Royal Nickel, c'est beaucoup à cause d'investissement que ça n'a pas fonctionné, mais il y avait eu une fenêtre. Là, maintenant, ils l'ont perdu. Ça va sûrement revenir. Mais ça marche vraiment de cette manière-là.
Ils vont être prêts en temps.
Ils ont déjà leur manteau, leurs souliers sont prêts.
Un BAF, une fois que c'est approuvé, c'est-tu comme Alice? Y a-t-il une limite à ça pour que tu refasses un BAP?
Bonne question. Oui, il peut avoir un deuxième BAP. On l'a vu à Malartic. C'est, dans le fond, ça va être des BAP pour l'augmentation du tonnage. Ouais, ça dépasse un certain seuil qui est fixé dans la loi.
Si le projet est pareil.
Puis si le projet est pareil, ça suit son cours. Mais qu'est-ce qui est problématique avec l'institution du BAP? C'est qu'ils ne sont pas en mesure de se positionner sur les enjeux de restauration des sites miniers. Fait que ça veut dire, en gros, que... toute la question de qu'est-ce qu'on fait avec le trou une fois que le gisement est sorti, ça prendrait quasiment un BAP pour ça, mais d'où l'intérêt de le faire avant et pas après, parce qu'on l'a vu, l'histoire le répète, l'enseigne largement. Souvent, ben les compagnies ont miraculeusement plus d'argent enfin pour restaurer les trous. Ben oui. Maintenant, il y a des garanties financières qui doivent être avancées à l'avance, qui représentent 75% du coût estimé. Mais c'est toujours fondé, ben pas toujours, là, je peux pas dire ça.
Fondé au début du projet.
C'est ça, puis avec un seul scénario qui englobe pas les potentiels agrandissements. Okay. On se rend compte que ça n'a pas de sens, parce que comme on le voit souvent, ben les projets prennent l'ampleur, puis c'est pas surprenant dans la lignée de croissance effrénée capitaliste qu'on mentionnait tantôt, que les projets prennent l'ampleur soudainement. Fait que dans le fond, c'est ça, pour le BAP, oui, il peut y avoir des améliorations à poser down the road, mais ça reste que c'est une instance qui est seulement là pour émettre des avis. Puis après ça, si le gouvernement se dit, ben on va te donner des jobs, puis dire des affaires comme, c'est pas vrai qu'on va perdre une job pour sauver Caribou de Val-d'Or, ça va continuer.
C'est des belles lignes de com', hein?
Ça va continuer à être ça.
C'est un beau communiqué, une phrase.
C'est quasiment pas populiste.
Ça fait combien de temps, Benoît? Ça roule, là?
Ça fait 56 minutes.
56 minutes.
Ah bah ouais.
C'est bien
été. C'est une première. Mathieu, les questions du public?
Oui, mais t'as vu, je vais aller voir sur le mur de la mode.
On était-tu, on était live sur YouTube, c'est ça?
Non.
Mathieu, j'ai vu, t'avais-tu d'autres questions pour...
Ben moi, ça... C'est cool. C'est une belle discussion. Merci, Rodek, d'avoir accepté l'invitation.
Merci, les gars. Ouais.
Pour vrai, c'est cool. On espère que ce podcast va prendre vie. On sait pas exactement quand ça va être diffusé.
C'est intemporel, ce qu'on
vient
de dire.
Ça va être bon dans
5 ans.
Ouais, c'est ça. Il va falloir rouvrir les livres d'histoire un peu, mais sinon, on devrait être correct. Mais ouais, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié la discussion. Puis nous autres, on va se revoir bientôt. On va booker d'autres entrevues. Il y a d'autres choses qui s'en viennent bientôt.
Ouais, je veux pas dire de flash parce qu'il n'y a pas de confirmation, mais on est supposé en avoir un bientôt.
On va essayer de vous filer du contenu sur les différentes plateformes, là, que ce soit Balado Québec, Spotify,
tout ce beau monde là, on va
plug à rien, Mathieu. Mathieu, on sait pas ce qu'on s'en va. Plug à rien, ferme ta gueule.
Peut-être qu'on va juste taper ça sur des cassettes puis de vendre ça au dépanneur.
J'avoue,
des manoir des rapides après
vendre
ça.
Vendre des vinyles de podcast. C'est une nouvelle opportunité. Ouais.
Non, pourquoi qu'on le dit? Faut pas le dire. Faut
non, je sais, ferme ta gueule. Bon, ben là-dessus, tout le monde, merci d'avoir écouté ce premier podcast à une tournure verte, écologique et économique. Quand même,
allez liker notre page Facebook.
Qui n'existe pas encore.
Mais qu'on va vous dire, dans notre page Facebook, on va vous dire c'est quoi la page Facebook.
C'est ça. C'est quoi le nom du podcast?
C'est quoi le nom du podcast? Ah, c'est, non, c'est un beau début.
Donc, merci tout le monde, merci Rodrigue, merci Mathieu, merci Benoît.
Un mot de la fin, Rodrigue? Un mot de la fin?
Un mot de la fin, ben écoutez, c'est le mot sans fin, là, finalement, de simplement dire que cette mobilisation-là vient de naître, puis honnêtement, je vous le dis, c'est l'ambition à la base de tout ça, c'est qu'on ait un modèle sain pour nous, pour on va pas se le cacher là, c'est nous les premiers les premières personnes qui vont devoir vivre avec les conséquences de nos décisions puis de pour ces immenses projets là. Fait que faisons-le pour nous, puis conséquemment ben je pense que la planète va bien se porter, puis surtout si on peut le faire dans un processus le fun, dynamique, entraînant, participatif, c'est génial, mais honnêtement, j'ai le goût de revenir en région après mes études, puis j'ai le goût de continuer là-dedans, mais c'est pas, tu sais, je suis pas une institution non plus, là, tu sais, publique, là, dans le sens que tout le monde peut faire ce qu'il veut, puis c'est bien open, puis il n'y a pas de pression qui repose sur les épaules de personne, au contraire, plus qu'on est nombreux, plus que c'est le fun. Fait que c'est juste ça que je veux dire, puis pas besoin d'avoir un background particulier, là. On a du monde de toutes les professions, mais même pas de profession. Juste d'avoir un sentiment en lien avec la nature, ça, c'est suffisant.
Fait que, vivre, juste vivre.
Que le message, finalement, c'est de dire on continue ce qu'on fait, puis merci pour l'écoute, puis je pense que c'est vraiment beau ce que je vois de la région. Tu sais, culturellement, vous en faites tellement, c'est sûr que c'est une dynamique qui nous rend fiers, mais je pense qu'on touche à quelque chose de similaire quand on parle de la relation avec le territoire abitibien. On est tous amoureux, amoureuses de la beauté de notre région, au niveau strictement naturel, mais là, on se rend compte que c'est menacé. Fait que pourquoi pas participer à un changement ensemble? Moi, je pense qu'on est winner. Ouais. Merci
parfait.
Tout le monde.
Parfait, merci.
Merci. Benoît, coupe.